Les textes sont tous des textes sapientiaux, des textes de sagesse. Sagesse de quoi? De la vie, bien sûr. Et elle repose sur une longue méditation sur la fugacité du monde, la fugacité du vivant en général et de l'homme en particulier. Le Qohélète, la première lecture, elle est bien connue, « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite devant ». C'est un regard qui est grave sur la vie. Alors, il est attribué au roi Salomon. Ce serait le roi Salomon qui méditerait sur l'existence. Or, le roi Salomon était bien connu pour sa sagesse, en même temps que pour sa puissance, pour ses richesses. Et donc, la méditation lui convient très bien, en tout cas son attribution. On pense en revanche probablement qu'il n'était pas véritablement l'auteur de ce texte, que ce texte est plus récent, sans doute 4e siècle, 3e avant Jésus. Mais en tout cas, il est l'œuvre d'un scribe, d'un sage qui médite sur le sens de la vie. Et le fait de l'attribuer à Salomon, c'est pour méditer sur la vanité du politique en général, la vanité de l'action qui s'étend en dehors des limites de l'existence humaine telle qu'elle est sortie des mains de Dieu. Elle est individuelle, cette existence humaine. Or, le propre de la grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf, c'est d'aller au-delà, c'est de vouloir... ou alors dépasser les temps d'une existence par rapport à la prospérité matérielle, ou alors le nombre de personnes concernées. La vanité du politique et des politiques en général, mais politique prise justement au sens le plus global du terme, ça peut être des financiers, ça peut être des militaires, etc., etc. Ça peut être même des intellectuels, des philosophes. Le Qohélète dit que tout ce travail, tout cet amassement de sueur en vue de former un grand château de sable qui va s'écrouler à la fin de son existence est une vanité. Tout est vanité. C'est le destin du sage est pareil à celui de l'insensé, nous dit-il. Et pourquoi dès lors tenter de devenir sage? Ne vaudrait-il pas mieux vivre comme le sot? Pourquoi? Le sage se distingue du sot, de l'insensé donc, ou du fou, comme dit Jésus, c'est exactement la même notion, celui qui est privé de sens. C'est de rechercher le véritable bonheur, le sens de la vie. Et c'est ça le secret de la sagesse. Le secret de la sagesse, ce n'est pas les secrets de l'univers, ni même le secret de la matière, ni aucun des secrets qui sont extérieurs à l'homme. Les fondements de la sagesse, c'est le sens de la vie pour chacun d'entre nous. Alors il y a une partie qu'on partage tous, c'est Dieu, mais il y en a d'autres qui nous appartiennent en propre. Et c'est à nous de découvrir le sens de notre vie. Et la sagesse devient réelle à partir du moment où cette sagesse, où cette recherche est mise véritablement en branle et constitue le vrai moteur de notre action, le vrai moteur de notre vie. Et ça suffit, ça, à tempérer, à humaniser, dirais-je, tous nos actes. Et tous nos actes, dès lors, prennent sens. Tandis que si on le fait pour construire quoi que ce soit, un monde idéal, une fortune immense, une vie aventureuse, ça peut être mais n'importe quoi, eh bien là, on perd le bonheur, on perd le sens même de notre vie. Parce que c'est extérieur, parce qu'on veut œuvrer sur quelque chose sur lequel en réalité on n'a pas de pouvoir, sinon momentanément, tout au plus. La sagesse, c'est, nous dit Jésus, elle se mesure, c'est une confrontation avec l'éternité. Fugacité de la vie présente et éternité Donc, sans limite pour la vie future. Et c'est là le secret du bonheur. C'est très beau de voir que le Coëlette, donc l'auteur, était quelqu'un donc noir. Hein, il était vraiment face à l'existence, à ses limitations. Il en voit la fugacité, il en voit la fragilité. On tombe malade facilement ou on meurt, bien évidemment, ça c'est le terme. On est victime de tas d'accidents ou de tas d'embûches, d'agressions, etc. Ce qu'on voudrait, on ne l'obtient pas. Ce qu'on ne voudrait pas, on l'obtient. Et c'est souvent comme ça. Il y a beaucoup de frustration dans l'existence humaine terrestre. Les hommes qui se révoltent contre le destin fugace de la vie humaine et fragile de cette vie, eh bien, tous, d'une manière ou d'une autre, veulent s'égaler à Dieu. Veulent s'emparer des secrets de la matière pour durer, pour consolider, pour fabriquer autre chose que cet univers qui nous entoure. Ils voudraient être Dieu. Bien sûr, ils ne le peuvent pas, ils ne le pourront jamais, mais il y a derrière l'insensé, les projets de l'insensé, eh bien quelque chose qui est de l'ordre de l'orgueil, et de l'orgueil le plus résolu. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Si on veut changer le cours de la vie terrestre, eh bien, si on veut, on est obligé d'être comme Dieu. Point. Parce que cette vie, elle est vraiment entre les mains du Seigneur. Or, le Coëlette, qui est un croyant, même s'il est vraiment grave par rapport à la vie, eh bien, renvoie au Seigneur et à l'obéissance à Dieu. Il faut accepter cette vie telle qu'elle est. Mais ça veut dire aussi vivre, eh bien, sans vouloir amasser, sans vouloir le riche de l'Évangile. Là, il veut vivre au club méditerranéen tout le reste de sa vie, quoi. C'est un rêve assez minable. C'est parce que toute son espérance est sur la terre. On a du mal, nous, à se débarrasser de ça. Voyez, c'est le motif pour lequel on vient trouver Jésus, c'est l'héritage. Ça arrive souvent. Eh bien, on se dispute sur l'héritage, bah pour en avoir chacun sa part, et plus que sa part, malheureusement, pour certains. Mais maintenant, je dirais, dans un certain cynisme, on a des cas, un cas m'a été rapporté, où ça n'est même plus pour soi-même ou au nom des frères et sœurs qu'on agit, mais on commence à descendre d'une génération. On commence à prévoir, eh bien, pour les petits-enfants. Et comme ça, c'est sans fin, vous voyez. Donc, on sème la guerre à l'intérieur des familles au nom des petits-enfants qui, eux, s'en fichent complètement des biens matériels qui divisent les familles. Après, il y aura les arrière-petits-enfants et les autres et les autres et les autres jusqu'à la fin du monde. Mais à quoi rime cette espèce de désir de possession, de contrôle sur la prospérité, sur les biens matériels? Ça rime à rien. Le Seigneur nous dit « Recherche le sens de ta vie ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer les membres de sa famille, ses enfants en particulier. Mais il faut, si on les aime, on les éduque justement dans un certain détachement des valeurs de la terre. Parce que c'est là que réside le bonheur. Ce qui manque au Coëlette, dans son pessimisme profond, il est comme Job, c'est la même tonalité que le livre de Job, hein. Eh bien, ce qui lui manque, c'est une éternité bienheureuse. Lui, il dit, eh bien, après cette vie, il n'y a que le Sheol. Et au Sheol, on est comme des ombres. C'est quoi? Comment se représentait l'homme de l'Ancien Testament, le Sheol? C'est un lieu où on ne peut rien désirer parce qu'on sait que rien ne sera accordé. On est comme une ombre. Imaginez qu'on est sur le point de s'endormir, qu'on est saisi de vertige, qu'on n'a pas la force de remuer ses membres. Eh bien voilà, ça c'est l'état existentiel de l'homme qui est au Sheol. Il peut profiter de rien. Et il ne désire même pas, on pourrait mettre à cet homme affaiblit. Eh bien, les biens les plus précieux et ceux qu'il convoite le plus, peu importe lesquels, mais eh bien, il ne pourrait pas, il n'aurait pas la force de tendre le bras pour les saisir et pour en profiter. C'est le cas lorsqu'on est malade. Quand on est malade, eh bien, tout perd sa saveur. Et tout ce en quoi on mettait sa confiance s'écroule d'un seul coup. Ben, le Sheol, c'est ça, sans la douleur, vous voyez, sans la torture, mais l'impuissance, fondamentalement. Jésus, lui, libère le bonheur. Et c'est ça le cri merveilleux du Nouveau Testament. Il conserve la même sagesse par rapport à la vie. Ne pas thésauriser, ne pas se lier avec la matière, ne pas perdre sa vie pour construire des châteaux de sable qui s'écrouleront à notre mort. Mais au contraire, savoir partager, connaître la joie du partage, de rendre les autres heureux avec ce qu'on possède, et de qualité ou de bien matériel, de faire des cadeaux, ça c'est... Dès qu'on aime quelqu'un, on aime lui faire des cadeaux, et c'est beau d'avoir quelque chose à offrir. Mais, le Seigneur dit, à condition que ce soit ordonné à un enseignement de sagesse, pour apprendre même aux autres, eh bien, à le même détachement. C'est l'antithèse de ça, c'est le financier contemporain. Vous voyez, ces financiers qui entassent des fortunes immenses dans des greniers et qui mourront minablement comme tous les autres. Et je dis bien minablement, il n'y a pas de mort glorieuse. Or, ils auront perdu toute leur vie, ces gens-là. Mais ils sont dévorés par l'argent ou bien par la jouissance des biens matériels, par l'ivresse de sensations, etc. Tous ces gens-là sont dévorés par ces biens matériels comme l'homme de l'Évangile. Et ils seront engloutis et ils n'iront pas dans ce paradis de bonheur que Jésus ouvre aux croyants. Alors nous voyons ce paradis de bonheur, nous voyons, nous ressentons, nous goûtons la liberté que Dieu nous donne et le détachement bienfaisant qu'il insuffle en nos cœurs par rapport à tous ces biens terrestres dont nous jouissons néanmoins et que nous apprécions néanmoins, mais qui nous ne mettons pas notre bonheur dedans. Nous ne les confondons pas avec Dieu. Jésus ouvre la porte du bonheur en ouvrant la perspective d'une éternité bienheureuse. C'est plus le Sheol, c'est vivre d'amour. Et alors, l'amour rend la vérité légère et douce au palais. Tandis que la vérité sans l'amour, eh bien, c'est la tonalité du Qohelet. Oui, il y a cette vérité, mais il n'y a pas l'amour pour la rehausser, pour la douceur, pour la rendre charmante. Alors la vérité devient dure, dure comme un jugement. Demandons vraiment au Seigneur en ce dimanche, en ce beau mois de juillet, le dernier jour d'ailleurs, mais ce bel été où nous sommes, image de l'amour justement et de l'amour divin, pas seulement humain, eh bien de nous rendre sages, de savoir jouir de la bonté du Père dont nous sommes sortis et d'avoir toujours plus conscience que nous sommes faits pour courir vers lui et de désirer eh bien, une vie brève mais intense qui nous mènera dans la lumière éternelle.